On va prier
pour ce temps de notre moment de culte. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Aide-nous à entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Tu as quelque chose pour chacun de nous. Parce qu'à chaque instant, tu penses à nous et tu nous accompagnes. Nous puissions être attentif et que tu puisses bénir ton serviteur de nous apporter ta parole. Amen.
Je ne sais pas si tu as besoin du micro. T'en as pas le micro. Oui, t'as raison.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous voir ce matin, et c'est une joie, hein, même si on n'est pas très nombreux, c'est bien qu'on puisse prendre un moment ensemble, avec les chants anciens que Jean-Pierre ressort régulièrement, et qui font vraiment du bien, parce que j'aime beaucoup les chants anciens. Voilà. Vous savez que mes propos vont être illustrés par des dessins. Et j'ai passé beaucoup de temps pour les faire, les dessins. C'est pas des dessins d'art, c'est simplement des dessins où j'ai mis vraiment, j'ai essayé d'illustrer des versets. Alors, je les ai mis là, sur l'étagère au fond, prenez-les, et puis méditez-les. Parce qu'il y a des versets bibliques dessus, et c'est bien de regarder, et puis de méditer, de réfléchir sur les versets bibliques. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous, et si vous étiez présents le 17 juillet, lors du message sur la troisième prière de Jésus pour son Église, vous avez été sûrement interpellés par la profondeur, la force et surtout la puissance de la demande de Jésus au Père dans la prière sacerdotale de Jean 17. Jean 17, 21, « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi » et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, par cette belle prière, Jésus définit au Père l'unité qu'il désire donner à son Église, à savoir une parfaite union de tous les croyants qui possèdent une même nature spirituelle, c'est-à-dire qui ont reçu le Saint-Esprit dont a parlé Jean-Pierre, à la nouvelle naissance et qui sont unis à l'image du Père et du Fils. Alors, frères et sœurs, nous croyons que cette prière de Jésus a déjà été exaucée par le Père. Et pourquoi le croyons-nous et comment en sommes-nous sûrs? Eh bien, premièrement, par la création de l'Église, qui est le corps du Christ. Jusque-là, tous les enfants de Dieu vivaient d'une manière dispersée. C'est rappelé par Jean 11, verset 52, que Jésus devait mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Et puis deuxièmement, par la croix, Christ a rapproché celles et ceux qui étaient dispersés et séparés de Dieu. Il les a réconciliés avec le Père, mais aussi entre eux, les faisant désormais membres d'un seul et même corps. C'est rappelé dans Éphésiens 2, versets 13 à 16. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dans ce corps de Christ créé le jour de la Pentecôte, eh bien maintenant, juifs et chrétiens convertis, esclaves et hommes libres nés de nouveau, hommes et femmes régénérés ne sont plus qu'un en Christ. Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni français ni africain, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. On est tous un en Jésus-Christ. Si cette unité est une réalité déjà accomplie en Christ, elle n'a rien d'humaine. Comme vous savez, dans le monde où l'on passe des alliances. Et souvenez-vous, par exemple, dans la littérature, la belle maxime des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, « Tous pour un pour tous ». Non, cette unité dans l'Église est purement spirituelle, donnée par le Saint-Esprit à toutes celles et ceux qui l'ont reçue. 1 Corinthiens 12, 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Alors vous comprenez parfaitement que dans ces conditions, que l'unité spirituelle ne peut exister, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, mais je le rappelle, qu'entre personnes ayant reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, qui sont nées de nouveau et qui appartiennent à Christ. Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Comment on peut créer une unité spirituelle avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit ? C'est clair, on ne peut pas être uni spirituellement, même dans l'Église, avec des personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Êtes-vous né de nouveau ? Appartenez-vous à Christ ? Voilà la question qu'on doit se poser ce matin. Alors, si nous ne pouvons pas humainement créer et installer l'unité dans l'Église, vous savez, à l'image du Père et du Fils, puisque c'est l'œuvre exclusive de l'Esprit du Christ, eh bien Dieu nous donne à chacune, chacun, une responsabilité, une mission, c'est celle de conserver, de sauvegarder l'esprit d'unité. Et on retrouve ça dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. L'apôtre Paul nous exhorte à parfaitement accomplir la part qui nous incombe tous. Je vous exhorte, dit Paul, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant, et c'est pas facile, les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, conserver l'unité de l'esprit. L'unité qui a été donnée par l'esprit. Alors, frères et sœurs, vous l'avez compris, la responsabilité qui incombe dans l'Église à chaque chrétien né de nouveau, c'est de travailler à conserver précieusement l'unité que Dieu a donnée à l'Église du Christ par le Saint-Esprit. Alors, imaginez que vous avez un ami qui est un richissime collectionneur de tableaux et puis qui va partir en vacances et qui vous dit Edith, est-ce que tu ne pourrais pas garder mon Rembrandt ? Il vaut des millions de dollars. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On prendrait bien soin de ce tableau, on prendrait beaucoup de précautions, on le mettrait vraiment en sécurité. Et là, il y a beaucoup plus que tous les Rembrandts du monde, que tous les Picasso du monde. Frères et sœurs, nous n'avons peut-être pas de grandes responsabilités dans notre assemblée, dans notre église locale, mais celle-là, nous ne pouvons pas passer à côté. Nous devons conserver l'unité que l'Esprit a placée dans l'Église. Puisque l'unité spirituelle dans l'Église, c'est l'affaire de tous les chrétiens nés de l'Esprit, et pas seulement du pasteur, des anciens, des membres du conseil, il est important de savoir comment y travailler pour la conserver. Alors, tout d'abord, il me semble que la première question à se poser, après celle de savoir si on est né de nouveau, c'est « Suis-je dans l'Église pour laquelle Jésus a prié le Père ?» Vous savez, j'entends depuis 40 ans que je suis dans l'Église, des personnes qui disent, mais moi ça m'arrive aussi de le dire, « Notre Église n'est pas assez spirituelle. Notre Église manque de spiritualité. » Frères, sœurs, l'Église du Christ dans laquelle se trouve l'Esprit de Dieu, l'unité spirituelle, en fait, elle ne peut être bâtie que sur le septuple base indiqué par Éphésiens 4, versets 4 à 6. Et je la rappelle. Alors, on va être très biblique et voyons comment Paul définit cette Église. Un seul corps, l'Église dont Jésus est le chef, un seul Esprit, l'Esprit Saint, une seule espérance, la vie éternelle par Jésus-Christ, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y a pas de gourou. n'est pas le pasteur qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, celle qui vient de la parole de vérité, la Bible. Un seul baptême, le baptême de l'Esprit, qui est la nouvelle naissance et nous fait naître à l'Esprit. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Frères, sœurs, si nous sommes dans une Église qui ne reconnaît pas un ou plusieurs de ces points, que ce soit dans sa confession de foi, dans son enseignement ou dans sa pratique, eh bien, fuyons cette Église. Ce n'est pas l'Église du Christ dans laquelle Dieu a placé son unité spirituelle. Par contre, si nous sommes dans la bonne Église, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Ne l'abandonnons pas ». Hébreux 10, 27 « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais exhortons-nous au contraire réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour de Jésus. Travaillons sans relâche à conserver l'unité, c'est très important. Alors comment dois-je travailler pour conserver l'unité ? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 26, Jésus, s'adressant aux disciples, leur dit « Le Saint-Esprit que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Jésus rappelle clairement que par la parole inspirée, la Bible, par l'enseignement dans l'Église, par le Saint-Esprit du Christ, c'est lui qui nous dit tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, je vous propose ce matin quatre grands thèmes bibliques sur lesquels vous pourrez, et je pourrai, moi aussi, travailler pour conserver l'unité spirituelle dans l'Église. Le premier thème que je propose, c'est la relation fraternelle à l'image de l'unité Père-Fils. Comme le Fils honore le Père, que chacun de vous honore son Père et sa Mère. Comme Dieu vous a aimé en Jésus-Christ en se sacrifiant pour vous, de même que chacun aime son frère et sa sœur. Romains 12, 10. Comme Dieu vous a accueilli en Jésus-Christ, de même accueillez-vous, donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueilli, pour la gloire de Dieu. Romains 15, 7. Comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, de même soyons bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnons-nous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Éphésiens 4, 32. Ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, nous le faisons également pour les autres. Ceci renforce l'unité. Le deuxième thème sur lequel on peut travailler aussi, c'est tout ce que la Bible condamne, tout ce que nous ne devons pas faire, car cela brise l'unité spirituelle. Par exemple, on trouve dans la Bible « Tu ne commettras pas de meurtre ». Exode 20, verset 13. Mais Jésus, lui, il va encore plus loin. Et Jésus, il parle au quotidien de ce que nous faisons chaque jour. Oui, le quotidien, c'est normal. « Eh bien, moi, dit Jésus, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère devrait être traduit en justice. » Celui qui lui dit « imbécile » devrait passer devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Voilà. Soyons attentifs. La pratique de ces péchés met l'unité spirituelle en péril, car elle crée la rancune, le rejet, le jugement, et parfois aussi la division. Le troisième thème, c'est le principe biblique de l'amour du prochain. Et on retrouve plusieurs passages dans la Bible qui parle de cela. Lorsque la pratique de l'amour lorsqu'on le pratique, eh bien ça favorise l'unité spirituelle dans l'Église. Par exemple, Matthieu 16, 7, verset 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis 1 Corinthiens 6, verset 7. pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Et je rappelle une parole que disait Jeff Socket. Hein, plutôt aimer que d'avoir raison. Même si j'ai raison, eh ben j'ai plus de puissance à vouloir donner aux autres. Lorsqu'on pratique l'esprit de sacrifice, lorsque l'on place l'autre avant soi-même, on travaille à conserver l'unité dans l'Église. Et puis le quatrième thème, et vous pourriez en donner d'autres, la reconnaissance de l'autre dans ses différences. Alors, vous le savez, l'unité n'est pas l'uniformité. Ce n'est pas parce qu'on est unis qu'on est toutes et tous les mêmes, tous semblables. Certes, on a le même esprit, mais des parcours différents. Acceptons-le. On a le même esprit, mais des personnalités différentes. On n'est pas les mêmes. On a le même esprit, mais on a reçu des dons différents, des dons complémentaires. Acceptons-le. Reconnaissons-nous, acceptons-nous, accueillons-nous dans nos différences. C'est cela, travailler à conserver l'unité spirituelle dans l'Église. Alors peut-être que vous allez me dire, si chacune, chacun de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit pratiquait ces quatre thèmes bibliques, ce serait formidable, hein. Nous aurions une Église unie, forte et fraternelle, il n'y aurait aucun souci. Alors je suppose que vous connaissez aussi toutes et tous ce dicton populaire, qui certes ne figure pas dans la Bible, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ne sont pas dans la Bible. L'union fait la force. L'unité spirituelle dans l'Église constitue donc tout à la fois une force d'ordre, car lorsque l'Église est unie, elle fonctionne dans l'ordre voulu par Dieu. Une force d'amour. Unie, l'Église témoigne d'un seul cœur l'amour du Christ. Une force de paix. Quand on est uni, on ne se divise pas, on est en paix les uns avec les autres. Vous voyez, cette force-là, eh ben, elle nous fait avancer. Et c'est une grande puissance. Pourtant, vous le savez bien, frères et sœurs, partout où l'Église du Christ s'installe, où un foyer chrétien s'édifie, eh bien notre adversaire, le diable, rôde et cherche à semer la division, la discorde, les conflits, la zizanie entre les frères et les sœurs. Pourquoi? Eh bien, pour lézarder, fragiliser et même détruire le bel édifice, la belle unité voulue par Christ. Regardez, frères et sœurs, combien d'églises, combien de couples, de familles chrétiennes ont subi ces assauts et ont été brisés. Frères et sœurs, ne lui facilitons surtout pas la tâche en lui ouvrant les portes, en n'utilisant pas les armes de Dieu que Dieu met à notre disposition. N'aidons pas l'ennemi dans son œuvre destructrice. Vous le savez, frères et sœurs, puisque vous le vivez certainement comme moi, nous sommes toutes et tous des êtres fragiles et bien faibles, de par notre nature charnelle et pécheresse. L'apôtre Paul, lui, il avouait, Romains 7, versets 18 et 19, ce verset que tout le monde connaît, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Est-ce que ce verset vous parle? À moi, oui. Vous croyez que des fois, je ne me mets pas en colère? Et vous croyez que j'ai envie de me mettre en colère? Mais non. Des fois, je dois accueillir quelqu'un, j'ai pas envie. L'engagement dans l'Église, c'est fatigant. J'ai pas forcément envie. Satan, lui, va sans se gêner utiliser nos fragilités, nos faiblesses, nos blessures, pas encore guéries, pour nous empêcher d'être des acteurs d'unité et même des acteurs spirituels tout court. Sachez-le, frères et sœurs, Satan est sournois et redoutable. Mais il n'est pas responsable de tout dans nos vies. Il prend la place qu'on veut bien lui laisser. Il s'insinue dans la moindre faille, alors essayons de ne pas laisser trop de failles. En réalité, ce qui constitue notre point faible, à nous, humains, c'est notre nature charnelle. Notre nature charnelle pécheresse, que nous traînons dans notre existence comme un boulet depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est un fardeau qui va nous pourrir la vie si nous ne comprenons pas quelle puissance nous avons reçue à la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et comment, par cette puissance seule, nous pouvons être un acteur spirituel. Dans le livre d'Osée, au chapitre 4, au verset 6, écoutez bien ce qui est écrit, parce que c'est important. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand on ne connaît pas, quand on ne connaît pas la Bible, ben Satan peut nous détruire. Le rappel biblique que je vais faire à présent est essentiel à connaître pour comprendre pourquoi, malgré ma bonne volonté, tous mes efforts, mon désir sincère de plaire à Dieu, je n'arrive pas à être ce bel acteur spirituel que j'aimerais être et suis le plus souvent un spectateur qu'un artisan d'unité dans l'Église. Vous savez que lorsque nous venons au monde, eh bien, que nous naissions dans une famille chrétienne, dans une famille musulmane, dans une famille juive, bouddhiste ou athée, ou dans n'importe quelle famille que vous voulez, nous naissons avec un corps de chair, porteur du péché. C'est la nature charnelle pécheresse. La chair et le péché sont tellement mêlés qu'on ne peut pas les dissocier. Nous sommes donc pécheurs dès la naissance et par conséquent privés de la présence de Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché, vous et moi, et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si au cours de notre vie, nous n'ouvrons pas notre cœur à Jésus, nous mourrons pécheurs. Et nous mourrons sans Dieu. Si au contraire nous lui ouvrons notre cœur, il y entre et il installe le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, la naissance à l'esprit. La nature charnelle, pécheresse, accable l'être humain de trois manières. Elle est porteuse du péché, et nous n'avons que notre bonne volonté à lui opposer. Deuxièmement, elle s'oppose en toute chose à Dieu et nous cache sa face. Et troisièmement, elle permet à Satan, le père du péché, de nous manipuler comme il veut. Pour sortir de cet enfer charnel, une seule solution, nous l'avons dit, naître de l'esprit. Ou naître de nouveau, hein, comme vous voulez. Lorsque nous naissons de nouveau, ça a trois conséquences sur notre vie. Premièrement, nous ne sommes plus esclaves du péché, car notre ancienne nature, dans ce qui faisait sa force, a été affaiblie. Elle a été crucifiée. Et c'est rappelé par Romains 6, versets 6 et 7. Effectivement, l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Alors bien souvent, nous on pense que, comme elle a été crucifiée, la chair, elle n'existe plus. En réalité, si elle a été crucifiée, notre nature charnelle reste toujours présente. Car sinon, on serait que des esprits, on n'aurait plus de corps. Non, ce qui change, c'est son pouvoir dominateur, sa force qui nous rendait esclaves du péché, qui ont réduit le péché à l'impuissance. Deuxièmement, en entrant dans notre cœur, Jésus y installe à demeure. Il y installe à demeure, c'est-à-dire pour toujours, le Saint-Esprit qui est à présent la puissance permanente de Dieu en nous. Matthieu 28, 20. Et voici, dit Jésus, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit qui est Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'eau de marque que nous avons reçue. Hein, si vous hébergiez à la maison Emmanuel Macron, vous diriez, mais c'est extraordinaire. Mais là, il y a plus qu'Emmanuel Macron. Il y a Saint-Esprit, il y a Dieu qui est en nous. C'est extraordinaire. Ça fait de nous le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 20, Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Paul, lui, il pose une question et il s'inquiète du fait que certains chrétiens nés de nouveau ignorent qu'ils ont en eux la présence du Saint-Esprit. Peut-être parce qu'ils ne le connaissent pas, le Saint-Esprit. Peut-être aussi parce qu'ils ne le sentent pas vivre en eux. Mais c'est par la foi que nous connaissons que le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est pas parce qu'on le sent, c'est parce que nous sommes sûrs qu'il est en nous. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en nous pour tous ceux qui croient. Amen. Et puis troisièmement, avec la présence du Saint-Esprit en nous, avec un péché à la puissance réduite, vous comprenez bien que l'ennemi n'a plus aucune autorité sur nous. Il est vaincu. C'est pour cela qu'il est vaincu. Il est vaincu, certes, mais il n'est pas découragé. Si on peut lui accorder une seule qualité à l'ennemi, c'est la persévérance. Mais hélas, dans le mal, il s'agit d'un esprit maléfique extrêmement persévérant. 1 Pierre 5,8 « Votre adversaire, le diable, il rôde avec persévérance autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Alors la question qu'on doit se poser est la suivante. Comment Satan vaincu peut-il encore nous déstabiliser ? Vous comprenez bien qu'il ne peut pas s'attaquer au Saint-Esprit, puisque c'est Dieu. Il a déjà essayé, mais il n'a pas réussi, puisqu'il était vaincu par Dieu. Pour lui, la seule solution, c'est d'essayer de nous éloigner de Dieu et nous attaquer en nous ramenant vers la nature charnelle pécheresse. Crucifié. Tel un lion rugissant, il s'agit bien sûr d'une image symbolique, c'est pas un lion. Il va s'attaquer à notre nature charnelle et en particulier à nos sentiments, à nos émotions qui nous fragilisent, comme par exemple la peur, les mauvais désirs, l'injustice, la curiosité. En fait, frères et sœurs, qu'est-ce que nous regardons ? Que mettons-nous sous nos yeux, par exemple, à la télévision, sur Internet, dans nos fréquentations, les chaînes d'information en continu. Moi, j'ai eu des moments où j'ai regardé beaucoup LCI et je voyais tout ce qui se passait en Ukraine. J'ai eu peur. Tous ces éléments véhiculent souvent la peur. Internet, par exemple, le mensonge, etc. Quand on regarde les séries télévisées aussi, des fois, on a des mauvaises pensées. La lecture de la Bible, au contraire, nous exhorte et nous encourage. Il va aussi s'attaquer à ce qui devrait faire notre force, à nous, chrétiens, la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque des chrétiens sont attirés par la nature charnelle et pêchent, ils ne comprennent pas, car ils croient que la nature charnelle crucifiée n'existe plus. Et Satan peut les culpabiliser par leur manque de connaissances bibliques. Il utilise aussi les maladies, la fatigue qui nous culpabilisent. Et souvent, quand on est malade, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu ?» Et puis des fois aussi, Satan, il essaye de nous pousser en nous disant qu'on n'en fait pas assez. Et est-ce que c'est en faisant beaucoup de choses qu'on plaît à Dieu ? Il crée aussi des circonstances, des soucis, fatigue, travail, activité, etc. pour nous détourner de ce qui fait notre force, la lecture de la Bible. Il y a deux versets qui en parlent. Vous savez, souvent, moi, Wardia me dit, c'est vrai, tu prends bien le temps de manger, tu prends bien le temps de te reposer, tu pourrais prendre le temps de lire la Bible. Matthieu 4, verset 4 dit, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi des paroles que Dieu prononce. » Et puis le second qui vient de Paul, Romains 10, verset 17, « La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. » Si nous nous privons de ce qui nourrit notre foi, nous sommes fragilisés spirituellement et nous redonnons vie à la nature charnelle crucifiée. Il va aussi nous conduire dans des attentes insatisfaites, vers des désirs charnels et en particulier dans l'Église. Combien de chrétiens se sont appuyés sur de fausses promesses ? des fausses promesses, par exemple, de guérison, et ont été déçus. Combien aussi se sont appuyés sur des fausses idées d'église parfaite. L'église doit être parfaite. Combien de chrétiens se sont appuyés sur des désirs personnels charnels, pensant sincèrement qu'il s'agissait de promesses divines. Soyons prudents, veillons, soyons des chrétiens mûrs et éprouvés. Satan cherche enfin à nous faire douter en s'attaquant à notre foi. Il nous passe au crible en nous culpabilisant pour le moindre péché, en nous faisant croire que nous avons perdu le salut. Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. Mais parfois, il peut aussi nous inciter à pécher en nous tentant et en banalisant notre péché, en disant « c'est pas grave ce que tu as fait, Dieu te comprend ». Pour ne pas devenir un chrétien charnel, la Bible nous donne la solution. 1 Pierre 5,9 « Résistez à Satan en demeurant ferme dans votre foi. » Venons nous placer en l'Esprit. C'est lui qui nous protège. N'entrons pas dans les pièges de l'ennemi. Refusons ses mensonges. N'allons pas là où il veut nous entraîner. Résistons-lui en étant des acteurs spirituels. Et si par malheur nous tombons, si Satan réussit à nous charger de culpabilité, à nous écraser sous les soucis de la chair, mais rien n'est perdu. L'apôtre Pierre nous dit de revenir à Dieu. 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Se décharger est un acte spirituel qui nous ramène à la foi et à la confiance en Dieu. Se décharger est un acte spirituel qui nous libère, qui nous délivre de nos lourds fardeaux et nous rapproche de Dieu. Et si on n'y arrive pas, on peut toujours se faire aider. Vous avez des sœurs dans l'Église qui peuvent aussi vous aider ou même m'aider spirituellement. Pour être des acteurs spirituels, des acteurs d'unité, il est important d'avoir des modèles. Des modèles qui peuvent être des personnages bibliques, qui dans leur vie ont été de véritables références. Et là, je vais prendre un exemple, le roi David. Dans le beau psaume 61, il se confiait entre les mains de Dieu plutôt que de céder à l'abattement. Et on va prendre le psaume 61, versets 3 à 5. « Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » Tu es pour moi, Éternel, un refuge, un bastion face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, m'y cacher sous tes ailes. Waouh, c'est formidable, c'est beau ça. David aurait pu s'enfoncer dans l'abattement, râler, rouspéter, vociférer contre les événements contraires, s'en prendre même à Dieu. Non, frères et sœurs, il choisit une autre voie, celle de l'Esprit. « Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Amène-moi là où humainement je ne peux pas aller. Tu es pour moi, Éternel, un refuge contre mes ennemis. Il n'entre pas dans des combats humains. Sa protection, il la cherche dans un Dieu sûr et fidèle. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, m'y cacher sous tes ailes. » David n'aspire pas à vivre dans les plaisirs terrestres, mais dans la présence, l'intimité de Dieu. C'est cela, frères et sœurs, choisir l'esprit plutôt que la chair. Frères et sœurs, nous sommes ce matin clairement devant un choix, celui de veiller, de résister et se décharger sur Dieu pour être un acteur spirituel d'unité dans l'Église. Ou alors celui de se laisser aspirer par notre nature charnelle, crucifiée, pour risquer d'être un acteur de division dans l'Église. Cette choix, ça nous appartient, c'est devant nous, c'est à nous de choisir, c'est à nous de savoir où nous voulons aller. Je vous remercie de votre écoute. Le 14 août, nous traiterons la suite avec le thème « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Voilà, je vous donne rendez-vous donc au 14 août. Merci. Je vais maintenant prier pour ce moment.